On va aborder le sujet qui est chaud en ce moment, à savoir la venue de Luis Enrique. J'ai failli dire Luis Suarez. Non, non, c'est bien Luis Enrique qui devrait arriver dans Paris Saint-Germain. Le Parisien a confirmé, RMC a confirmé, l'équipe a confirmé. Les confirmations n'arrêtent pas de tomber les unes après les autres, même si on n'est pas encore en officialisation. Je suis accompagné de Fuentes et de Tonton. Il y a Hacker qui va pas tarder à débarquer aussi. Fuentes, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ça va, tranquille. Et toi, Tonton?
Deuxième de la vie de la journée, mais toujours aussi frais.
Eh ben écoute, j'imagine que c'était sur ton autre chaîne, ton premier live.
Oui, en plus j'ai parlé du Barça, comme quoi t'as vu, le fameux
Ah
salut.
ben écoute. Mais on va se demander en fait si Enrique c'est une bonne idée pour le PSG. Est-ce que c'est une désillusion par rapport à l'illusion qu'a été Nagelsmann? On va se poser tout un tas de questions comme ça. Et l'ami Fuentes qui lui porte le Barça dans son cœur va pouvoir nous dire pour toi c'était quoi du coup Enrique au Barça?
Bah Enrique au Barça, c'était beaucoup d'émotions au début, beaucoup de spectacles liés à l'effectif, on va pas se mentir. Un jeu assez plaisant au début, avec parfois un mix de possession, mais pas de la possession en U stérile comme on a pu le voir en sélection. Il faut vraiment s'enlever cette image de lui. Beaucoup de projections vers l'avant, rapide. Bah après, c'est l'effectif qui permettait de le faire, mais sincèrement, dans l'ensemble, vraiment des très bons souvenirs sur le jeu.
Ok, et pour toi, c'était quoi du coup les vrais points positifs dans le jeu?
Projection rapide. Vraiment, c'est
Projection
là,
rapide?
ça apportait un petit peu de spectacle à ce Barça, tu sais, qui parfois pouvait être redondant. Vraiment, c'est bien, on met en avant la possession, mais parfois ça devenait stérile, inoffensif. Et lui, justement, il arrivait à casser ce truc, si tu veux. On pouvait alterner cette possession propre au Barça, on est obligé de la garder, sinon on se renie un petit peu. Mais il amenait davantage de projection, entre guillemets, un petit peu comme Klopp peut le faire, si tu veux, avec Liverpool. C'était différent, mais vraiment cette projection rapide vers l'avant avec les flèches qu'on avait et la qualité technique devant, c'était bénef quoi.
Et les points négatifs que tu nommerais, ce seraient lesquels du coup?
De Luis Enrique?
Ouais, de Luis Enrique au Barça.
Très têtu.
Ouais.
Très têtu, ça peut être une qualité comme un défaut. Pour moi, c'était un. Ça devenait un défaut, ça devenait clairement un défaut. Même en sélection, ce côté têtu l'a encore trahi un petit peu. Ça, c'est vraiment le côté négatif que je retiens. Après, il y a le côté positif où c'est un mec qui a un énorme caractère, parce qu'il rend têtu aussi, mais c'est un mec qui n'a pas hésité à rentrer dans certains joueurs, à leur dire tu peux être qui tu veux, si j'ai envie de te mettre sur le banc, tu vas sur le banc. Ce qui a amené des problèmes aussi, parce que derrière, il a rapidement été convoqué dans le bureau du président pour lui dire, il y a des joueurs à qui il faut pas trop leur dire ça, parce que sinon ton poste, tu peux potentiellement le perdre. Donc, il a dû mettre un petit peu son ego et son gros caractère de côté pour pouvoir continuer d'être coach au Barça. Mais non, vraiment, le point négatif, c'est têtu. Ça peut être chiant.
Okay. Et bah, du coup, Tonton, je vais te demander de réagir sur deux choses. La première chose, c'est est-ce qu'au fond, il avait le choix? Est-ce que c'était pas la meilleure réponse, avoir un jeu plus direct? Première question, notamment par l'effectif, hein, quant à la NMNM, la MNM, ça me fait penser
La
au MNM,
MSN,
voilà, la MSN en plus, ouais.
la vraie,
Ah oui, non,
l'original.
mais voilà, je suis. Mais quand tu as ça, peut-être que c'est la meilleure réponse. Et la deuxième question, c'est bah, Fuentes nous parle d'un coach têtu. Qui est têtu avec ses joueurs, qui veut imposer quelque chose à ses joueurs. Est-ce que c'est possible pour toi au Paris Saint-Germain, ça?
Ben, en fait, au final, tout dépend de la marge de manœuvre que tu vas laisser à ce coach, en fait, de la même manière que Adot, dans le sens où Luis Enrique n'est pas le seul coach qui est mis au Paris Saint-Germain et qui a des idées fortes. Thomas Tuchel ou Unai Emery aussi avaient des idées très fortes dans le jeu avant de venir au Paris Saint-Germain. Et est-ce que finalement on leur a laissé la liberté qu'on est censé laisser à un coach d'un grand club pour qu'il puisse manœuvrer et faire bien son bon taf? Pas forcément en soi, tu vois. Donc je dirais c'est plus là la limite. Je rejoins Fuentes sur le fait que les qualités et défauts qu'il a ben, se complètent en fait, dans le sens où c'est un gars qui a beaucoup de caractère et ça, c'est quelque chose dont on aura besoin au Paris Saint-Germain. C'est pas pour rien qu'on a réclamé Mourinho. Donc, c'est quand même un point qu'ils ont en commun, même si on va pas dire qu'ils ont le même jeu du tout, tu vois. Mais Luis Enrique, c'est aussi un coach qui s'adapte dans le sens où ça a été bien dit quand il est à Barcelone. Le Real Madrid vient de gagner la Ligue des Champions la saison précédente avec la fameuse BBC, tu vois, avec Bale, Cristiano et Benzema. Le Barça répond un peu à ça ben, en créant la MSN. Il y avait déjà Neymar, il y a déjà Messi, mais il manquait un attaquant de haut niveau pour compléter ce trio. Et finalement, ben, le Barça on va dire casse sa tirelire, hein, parce que pour l'époque, mettre 83 millions sur Suarez, qui en plus ne débutait pas avant novembre, c'est important à rappeler, parce qu'il avait mordu de Chiellini, c'était un sacré investissement et un sacré pari, donc il a eu le courage de le faire. Je ne sais pas pour vous si vous avez le souvenir, mais Suarez, il s'est retrouvé à jouer contre l'Indonésie avec les joueurs du Barça pour se faire l'écrou en attendant d'être sur le terrain. Bah, Luis Enrique, il n'en a pas démordu, et finalement, cette attaque, elle termine peut-être une des meilleures attaques de l'histoire en termes de but, en tout cas, tu vois. Elle fait le triplé, parce que il a gagné la Ligue des Champions. Et il y a faire le triplé, c'est deux choses différentes. Il y a des équipes qui gagnent la Ligue des Champions et elles terminent sixième du classement. Je ne vais pas les citer, tu vois, ou genre elles font rien d'autre. Mais genre, ouais, au-delà de ça, bah, il a exploité les qualités de ses meilleurs joueurs avant tout. Et du coup, bah, à partir de la deuxième saison, comme il disait, ça a été différent. Les milieux, ils ont été moins présents. Xavi est parti définitivement du Barça. Donc, ouais. Même s'il n'était pas titulaire et qu'il n'a pas fait, tu sais, les 60 matchs sous Enrique la première saison, bah, Xavi, quand même, sa présence, elle avait quelque chose dans Zestier, tu vois, je veux dire. Bon, il n'est pas coach du Barça pour rien au final aujourd'hui, ce mec. Donc, je me dis que justement, il sait exploiter ce qu'il a. Et quand il était en Espagne, qu'est-ce qui lui a manqué? Un neuf. C'est marrant, c'est un peu ce qui
alors, on va attends, l'Espagne, on va faire peut-être un focus un petit peu après. Là, on va se concentrer sur le Barça. Alors, Haché, je m'excuse pour tout le monde. Hein, je vais encore ne pas bouger la tête parce que j'ai la caméra qui est en 2G. Par contre, Emix, évite de nous dire ce que tu faisais le samedi soir. Ça concerne personne. Et Fuentes, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu expliques du coup, compte tenu ce coach, de ce qu'il a amené, le 4-0 au Parc, le 3-0 à Turin en 2017, comment est-ce que tu les justifies, ces deux grosses contre-performances?
C'est que mon avis perso, après, on sait qu'on a eu pas mal de soucis avec certains cadres au sein de l'effectif au Barça depuis des années, il l'a subi également. Là, on est enfin débarrassé, débarrassé c'est un grand mot, mais on se comprend, de ça. Mais je pense que Enrique, c'est un gros bosseur. Il a voulu imposer sa façon de jouer qui passe par énormément de travail physique. T'as pas le choix. Et je pense que certains cadres refusaient ce travail physique. Valverde, qui est venu après, a eu exactement les mêmes soucis. Donc je pense qu'il... Quand tu ne peux pas travailler l'aspect physique et que tu arrives en Ligue des Champions face à une équipe qui est morte de faim, typiquement au Parc à l'aller le 4-0, bah tu te fais surprendre. Quand tu as une MSN qui refuse de défendre, ça devient tout de suite plus compliqué. En Liga, ça peut passer, c'est génial, mais en Ligue des Champions, c'est compliqué. Il y a eu le 4-0, il a réussi derrière, grâce à sa mentalité, à les piquer dans leur ego. Derrière, on a le match retour, on va pas faire le scénario, les gars, il y a l'arbitre, tout ça, pas de souci, mais...
Il y a quand même le match retour, parce que excuse-moi.
Non, parce qu'il a quand même réussi à les piquer. Et si tu te souviens bien, il y croyait dès le début. Fin du match, il était focus sur le match retour et il y croyait. Mais après, pour la Juve, je pense que c'est exactement pareil. C'était un état d'esprit général au Barça, une équipe qui n'a pas trop envie de bosser. T'arrives, tu prends un petit peu pour les meilleurs du monde. T'arrives sur le terrain, t'es en Ligue des Champions, on va s'amuser avec les potes. Mais non, ça marche pas comme ça, en fait. Et je pense qu'il a été confronté à ces soucis-là. Et puis sur la fin, avec Enrique, il était à bout de souffle, il n'en pouvait plus. Le Barça, c'est très compliqué. Tu arrives avec des cheveux, tu repars sans cheveux ou avec des cheveux gris. Ça te demande beaucoup d'énergie. Et je pense que le message passait plus trop avec les cadres et il était à bout. Hein.
Alors, juste très rapidement, Fabien Durand qui met ça en avant. C'est vrai que je ne sais pas s'il fait des Ironman, mais en tout cas, au niveau marathon, je sais qu'il est chaud, chaud, chaud bouillant et qu'il enchaîne. Et qu'il enchaîne les perfs à ce niveau-là. Vas-y, tonton.
Pour te répondre, c'est un cycliste plutôt bien avéré. Je ne sais pas si tu te rappelles, il a fait sa liste. C'était pour la Coupe du Monde ou l'Euro, en faisant une belle étape des Pyrénées à vélo. Non, c'est un cycliste de haut niveau. C'est un mec qui vraiment fait beaucoup
acharné
de sport. Non, mais vraiment, si tu t'amuses à le voir en tenue de sport, tu vas être en mode « Ah oui, ce gars, il travaille. C'est un bon bosseur. »
Mais alors par contre, tonton, justement, c'est vraiment quelque chose qui ressort et qui insiste. On est au Paris Saint-Germain avec des coachs qui, d'une manière générale, sont venus sans jamais pouvoir vraiment imposer leur vision au club. Et là, on parle d'un coach qui ne sait pas, a priori, de ce qu'on entend, fonctionner sans imposer sa vision au club, ou qui est prêt à aller au clash par rapport à ça. Et puis une fois qu'il est allé au clash, tu te retrouves avec ce que tu me disais, hein, Fuentes, un Enrique qui est dégradé en fait dans un deuxième temps. parce qu'il était obligé de mettre de l'eau dans son vin et que fondamentalement, il ne s'est pas fonctionné comme ça. Est-ce qu'il a obtenu des garanties au niveau du club? Est-ce qu'il va venir et qu'il va se manger la tête de mur des Qataris qui ne veulent pas laisser le moindre contrôle et qui s'occupent du terrain? Comment est-ce que ça va se passer pour toi? T'entends?
Ah, je croyais que tu posais la question en Fuentes, autant pour moi. Bah ouais, justement, c'est ce que je disais en début de live, en fait. Ça ouais, dépend de la marge de manœuvre que tu vas lui laisser. Parce qu'au final, si tu lui mets autant de bâtons dans les roues qu'au coach précédent, alors je te compare pas Luis Enrique à Galtier, hein, loin de là. Hein, j'ai un minimum de respect pour Luis Enrique, même si je suis pas le plus grand fan. Mais cependant, si tu lui laisses la même marge de manœuvre qu'aux autres, que tu as certains joueurs qui font pas certains efforts, bah. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il pourra crier, il pourra s'énerver. C'est juste lui que ça va épuiser, en fait, et peut-être qu'il partira même de lui-même, en fait,
ouais.
Au final.
En gros, c'est peut-être un coach qui vient là pour un an et plus si affinité, mais pour l'instant, on est là que pour un an, quoi.
Alors, je dis pas qu'il vient que pour un an, tu vois, parce qu'au Barça, il est resté 3 ans. Le problème, c'est qu'en fait, c'est ça. En club, il a plus entraîné depuis 2017. Le problème, il n'est plus là. Et le foot, il a beaucoup changé depuis 2017. Donc ça, à la limite, tu pourrais dire que c'est un problème, mais il reste toujours dans le long terme, que sur Barça, il est resté 3 ans, en sélection, il est resté plusieurs années. Bon, à la Roma et Celta Vigo, c'était pas trop ça, mais il a essayé quand même, tu vois, de rester un petit temps. Donc non, en soi, il va essayer de rester à moyen terme, je pense, tu vois. Après, est-ce que ça va marcher? C'est ça le vrai problème.
Et est-ce que cette longue pause, pour toi, c'est un gros problème ou pas?
Mais c'est pas une pause qu'il a fait parce qu'il a entraîné en sélection. C'est juste que le foot de sélection, pour moi, c'est pas le même foot que le foot de club. Dans le sens où, quand tu es en sélection, tu vas devoir sélectionner des joueurs par rapport à la nationalité. Tu ne pourras pas faire de transfert. Si un joueur ne te convient pas, tu ne pourras pas dire bah, « moi, je cherche tel profil de neuf, il faut aller le chercher sur le mercato ». Et ça, en Espagne, bah, il a subi, en fait, parce qu'il a fait certaines choses que j'aime bien, notamment Dani Olmo en faux neuf contre l'Italie en demi-finale de l'Euro, que j'utilise beaucoup comme match référence de Dani Olmo, d'ailleurs. Mais cependant, il a fait parce qu'il n'a pas pu faire autrement. Il n'avait pas un Luis Suarez sous la main. Cependant, si tu le mets au Paris Saint-Germain, actuellement, il a la même problématique. Il n'a pas de neuf de haut niveau.
On en parle
Est-ce qu'il va pouvoir acheter un
neuf? On en parle après. Ça, là, pour l'instant, on est vraiment sur le temps. Est-ce que les 3 ans sans club, ça peut coûter cher?
Mais ça fait 6, là. C'est 2017, la dernière fois qu'il est entraîné en club.
Excuse-moi, les 6 ans.
On est déjà en 2023, Bastou. Oui. Drias, désolé de te réveiller comme ça, tu vois, mais ça fait 6 ans qu'il a pu entraîner en club. Certes, c'était de la sélection. Il l'a entraîné, tu vois.
Est-ce que c'est un problème pour toi ou pas?
Enfin, un peu quand même, mais c'est différent. C'est différent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait, tu vois. Mais c'est un peu un problème parce que, comme je dis, le foot de sélection, ce n'est pas le même que le foot de club au final. Donc, ça posera un petit problème, je pense, mais à voir comment ça se déroule. Je vais lui laisser sa chance quand même, surtout s'il est coach.
Ok. Et pour toi, Fuentes, est-ce que ça peut avoir un impact, un mec qui a sélectionné pendant 6 ans et qui revient dans un club? Et on ne parle pas d'un club, on parle d'un club où il y a quand même, malgré tout, malgré les années très décevantes qu'on vient de connaître, qui a malgré tout beaucoup d'attentes. Est-ce que c'est pas un problème?
Si. Après, pour moi, c'est un problème, mais tu peux voir ce problème-là sous une autre facette. Les coachs, quand ils passent par des clubs, par des gros clubs, c'est très éprouvant. Ils ont besoin de se reconcentrer sur eux-mêmes, de se refaire, de se reposer un petit peu. Là, il a eu cette période avec la sélection. Il y a eu le souci, malheureusement, avec sa fille qui l'a contraint à quitter la sélection avant de retourner en sélection. Il a eu beaucoup de choses à gérer d'un point de vue personnel très dur émotionnellement. Maintenant, la sélection, c'est un temps très imparti. Ça te prend beaucoup moins de temps dans ta vie que lorsque tu es en club. C'est tous les jours, c'est ton quotidien, c'est des sacrifices de famille. Il y a plein de choses, tu vois. Je pense que ça lui a fait du bien, le fait de cette expérience sur l'aspect national. Mais ouais, il est plus dans le bain comme... En fait, il va falloir lui laisser ce temps de se remettre, de se réhabituer à ce que c'est d'être coach en club. Est-ce que vous allez avoir cette patience? C'est plus ça la vraie question.
D'accord. Alors, très rapidement, hein, ça défile un petit peu partout. Le petit like, les gens. Juste, vous êtes sur votre téléphone, vous tournez, vous appuyez, vous êtes sur l'ordinateur, vous dézoomez, vous rappuyez. Vous êtes sur l'écran, je ne sais plus comment on fait, etc. Mais juste le petit like, nous, on fait l'effort d'être là, on en parle, on prend un moment pour en parler. A priori, si vous restez, c'est que vous appréciez le contenu. Faites juste le petit, vous appuyez sur le truc et puis comme ça, on n'a pas besoin d'en parler. Il n'y a pas besoin de voir 100 000 messages sur le sujet et on peut enfin passer au contenu, quoi. Alors, il y a une petite question qui est sous-jacente à ça, c'est que mine de rien, on parle d'un coach qui n'a eu que des expériences en Espagne. C'est la première fois qu'il sort d'Espagne. Est-ce que ça va représenter... Alors, vas-y, Vas-y, ton
L'AS
tour.
Roma, mais c'est un échec.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour une expérience extrêmement négative, et oui, juste après d'ailleurs, mais pour une expérience qui ne s'est pas bien passée. Et là, il sort d'Espagne, après avoir été en tout cas très longtemps en Espagne, il se retrouve dans un club français dans lequel il y a des attentes. Est-ce que vous voyez ça comme un problème ou comme quelque chose qui va passer comme une lettre à la poste? Commence Fuentes, si tu veux bien.
Bah écoute, moi je vois ça de manière positive dans le sens où il sort de sa zone de confort entre guillemets, tu vois, il quitte le cocon espagnol, prise de risque, ça montre un certain caractère que j'évoquais en début d'émission. Pour moi, de toute façon, c'est ce qui le représente le plus, très gros caractère. Après, voilà, il y a l'adaptation de la langue, de la culture. C'est Marcelo Bielsa qui en parlait très bien de tout ça, de s'imprégner à toute l'atmosphère autour. À voir. Moi, je sais que c'est un tonton l'a dit, c'est un mec qui n'hésite pas à bosser, que ce soit sur l'aspect physique, mais je pense qu'il va rapidement bosser le français pour pouvoir communiquer avec les joueurs. Non, je trouve ça intéressant, je trouve ça intéressant. Et puis, il faut qu'il passe par là, de toute façon, tôt ou tard. Il va pas rester à stagner en Espagne toute sa vie, même s'il y a eu ce passage à la Roma, bien sûr, mais il peut pas rester focus Espagne.
Et toi, pour toi, tonton, parce que en fait, Fuentes nous a fait la réponse du côté de Luis Enrique. Toi, tu vas nous faire la réponse du côté du PSG. Est-ce que c'est une bonne chose?
Alors, il y a une logique, tu vois, de se poser la question de est-ce qu'il peut réussir hors de Navarre, vu qu'il n'a jamais quitté le territoire avec succès. Mais cependant, on peut se dire qu'il y a d'autres coachs qui sont venus au Paris Saint-Germain et qui ont fait des belles choses dans le même contexte. Je pense notamment, tu vois, à un certain Thomas Tuchel qui n'avait jamais quitté l'Allemagne avant d'arriver au Paris Saint-Germain. J'ai fait exprès de mal le prononcer pour te faire mal.
Ah non,
Et
c'est juste.
aussi. Et aussi un certain Unai Emery aussi qui n'avait jamais quitté l'Espagne avant d'arriver au Paris Saint-Germain et ça ne lui a pas empêché de mettre un 4-0 au deal Luis Enrique d'ailleurs au passage, petite dédicace. Mais donc non en soi, finalement, c'est plus qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de l'effectif, quel mercato il aura, moi, les questions que je me pose, tu vois. Mais finalement, je ne pense pas que le vrai problème, il soit du fait qu'il n'ait jamais réussi hors d'Espagne, même si en soi, c'est un frein. Et en soi, c'est normal qu'il y ait des gens qui se posent des questions et qui se disent, oula. Est-ce qu'il va réussir chez nous? Il n'a jamais réussi en Espagne. Ben, c'est normal de se poser la question, tu vois. Mais pour moi, ce n'est pas ça la vraie problématique au fond.
Alors, tu as gratté le sujet. On va attaquer maintenant. On ne change pas l'effectif. On a l'effectif qu'on a. Est-ce qu'on a un effectif adapté à Luis Enrique? Commence qui veut. Celui qui lève la main en premier commence.
Allez, vas-y, je me lance. Vu que c'est mon club, je connais un peu mieux l'effectif que Fuentes, donc je pourrais tricher un peu plus. En soi, ça dépend de quel Luis Enrique tu parles, parce que comme j'ai dit, Luis Enrique, au final, il s'adapte quand même un petit peu à son effectif, il n'est pas rigide. Il n'a pas fait la même chose à Barcelone qu'il a fait en Espagne, parce qu'il n'avait pas les mêmes joueurs, il n'avait pas les mêmes profils de joueurs, donc il n'a pas mis en place ce même jeu. Si tu te fies au Luis Enrique de l'Espagne, non. Après, si tu te fies au Luis Enrique de Barcelone, je pense qu'il peut tenter des choses, mais il y a quand même certains profils, on va pas se mentir, qui ne sont pas la priorité, on va dire, de Luis Enrique. Je vais m'exprimer. Par exemple, quand je vois des défenseurs comme Kimpembe, Danilo, Skriniar, ce ne seront pas forcément des défenseurs préférentiels de Luis Enrique. Marquinhos n'aura pas de problème parce que techniquement, il est au niveau de ce que demande Luis Enrique de son équipe et même des défenseurs. Donc Marquinhos, je pense que lui, c'est le grand gagnant de l'arrivée de Luis Enrique en termes de défenseurs. Cependant, il est possible que Luis Enrique il demande une recrue au poste de défenseur central qui ait les qualités techniques pour jouer son style de jeu. Nuno Mendes, pas de problème. Bernat, pas de problème. Hakimi, pas de problème. Moukele, il aura des problèmes, je pense, mais il va falloir qu'il travaille dur.
Il s'en sortira, il nous a surpris cette saison, il va s'en
Oui, mais
sortir.
Moukele, tu vois, pour moi, si tu parles de Luis Enrique, je pense que ce sera plus un défenseur central qu'un latéral. Mais ça ne veut pas dire que, tu vois, qu'il va tout rater. Mais il va falloir qu'il travaille pour être latéral sous Luis Enrique, parce que je ne te dis pas qu'il est nul, il a même été très bon sous Nagelsmann en tant que piston. Donc en soi, tu peux en tirer des choses. Mais je me fie plus à Luis Enrique. Si je parle des milieux, Verratti et Paredes, c'est les grands gagnants, alors eux, ils sont contents. Ugarte, je sais
Ugarte,
pas.
quoi. Ugarte, bah
Ugarte.
non, c'est pas son style, quoi.
Ouais, mais après, ça dépend justement de. Si tu mets Ugarte, mais que tu l'entoures de deux milieux très techniques, je donne un exemple. Hein. Si Ugarte est ton 6, mais que tu l'entoures de Verratti, qui de toute manière va coller son 6, hein, on connaît Verratti, il joue jamais très très loin du 6, et que l'autre milieu, c'est Bernardo Silva, peut-être qu'il acceptera que son 6 soit Ugarte, tu vois. Mais je te donne un exemple, tu vois, très 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 précis. Asensio, il va être remplaçant, mais il y a moyen qu'il joue. Mbappé, je sais pas. Moi, je pars de l'optique qu'Mbappé, il va partir, en fait. Donc, j'imagine pas Mbappé sous Luis Enrique. Neymar, ce serait un faux neuf, je pense, sous Luis Enrique, mais ce serait plus un ailier.
Et pour toi, il a le matériel en tout cas.
Bah, Neymar, si tu me garantis qu'il peut jouer 60 matchs la saison prochaine et qu'il se blesse zéro match, et que tu parles de Luis Enrique, Neymar, il peut jouer faux neuf si tu n'arrives pas à recruter le neuf.
Après, il n'a pas vraiment joué. Ce serait Neymar qui fait du Messi, quoi.
Bah oui, mais il n'y a plus Messi, justement. Si tu enlèves Messi et Mbappé et que Neymar est le faux neuf, et que c'est Luis Enrique le coach, ça a déjà plus de sens que si tu le fais sous Galtier.
C'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible. Toi, de ce que tu connais l'effectif du PSG, comment tu le sens avec Luis Enrique et Fuentes?
Moi, je le sens plutôt bien. Je vais me faire des ennemis côté Barça, mais c'est pas grave. Le départ de Messi va le soulager. Dans le sens où tout Messi qu'il est, et immense respect pour lui, à son âge aujourd'hui, en termes de gestion, c'est très compliqué. Et si c'est pour se retrouver dans un club et avoir les mêmes problématiques, à ne plus pouvoir sortir tel ou tel joueur, tout de suite, ton travail, tout ce que tu vas vouloir mettre en place, tu ne vas pas pouvoir le faire réellement au final. Donc, pour moi, à partir du moment où il n'y a plus Messi, déjà, ça libère un poids énorme. Après, au vu de votre effectif, sincèrement, vous avez beaucoup de qualités. Il y aura aussi un mercato qui sera décidé, je l'espère, si le club travaille bien, en cohésion avec les choix de tout le monde, que les choix d'Enrique vont être écoutés, respectés et validés. Mais pour moi, vous avez clairement le matos pour qu'il réussisse. Hein.
Moi, je suis.
Il y a quelques manques encore, mais.
Je vais me permettre d'intervenir dessus parce que moi, je suis super inquiet pour ça. Parce que justement, moi, les seules choses que je connais d'Enrique, de ce que je connais, hein, je ne connais pas tout de lui, mais c'est en gros des projections très rapides ou une forme de tiki-taka. Mais tiki-taka tout terrain qui fonctionne bien, qui, c'est vrai, a du mal à marquer des buts, mais est quand même beau à voir, mais finit par être lassant à la 60e parce que tu as l'impression qu'il tourne beaucoup pour rien faire. Mais voilà, c'est les deux côtés que je connais d'Enrique. Et franchement, sur ces deux côtés-là, on a un effectif qui est incapable de jouer ou dans l'un ou dans l'autre. Moi, je vois d'énormes problèmes dans l'effectif actuel et j'ai l'impression qu'il faudrait réformer beaucoup de choses pour avoir un effectif qui correspondrait ou à un ou à une des versions ou à l'autre des versions. Vous n'avez pas la même perception, tonton ?
Après, moi, je reste déçu du Enrique en sélection, une fois de plus, qui a été très têtu, qui a été très controversé en Espagne. Beaucoup de Madrilènes, en l'occurrence, qui étaient contre lui, parce que pas de voir du Real, ou très peu. Mais il est resté fidèle, ses idées. Il est allé jusqu'au bout. Ça n'a pas marché, donc il s'est pris un petit revers. Mais moi, parfois, je prenais plus de plaisir à regarder la sélection espagnole. J'avais l'impression de revoir l'Espagne de Del Bosque.
De 2014.
Tout à fait. La pire de 2014, tout ça. Ou même de 2014. Tu vois, une possession en U, comme ça. Ah bah super, t'as le ballon, mais tu fais que des va-et-vient. Tu crées rien, en fait. Donc j'espère qu'il va retrouver ce côté un petit peu projection vers l'avant. Et pour moi, vous avez même porté par un parc, pour moi, vous avez tout pour jouer ce football-là, en fait.
Si on prend Neymar, il n'a plus vraiment la vitesse. On a Mbappé, on ne sait pas s'il est là, mais Mbappé, effectivement, il peut te les faire, mais qui lui donne la balle? Un des plus gros pourvoyeurs en ballon long, c'était Danilo. J'exagère un petit peu, mais à peine. Il y a un peu de troll là-dedans, mais c'est à peine une exagération, quoi. Quand tu vois que c'est Danilo qui le fait, tu peux te dire que tes attaques rapides, il va pas y en avoir légion. Donc après, peut-être qu'il est capable de retrouver une animation derrière et au milieu qui permettrait d'aller plus vite, mais en l'état, j'ai des gros doutes quant à la capacité à la recréer, quoi. Vas-y, tonton, réagis si tu veux réagir, en tout cas.
Non, en soi, comme j'ai dit, il y a des joueurs qui peuvent correspondre à Luis Enrique, on en a déjà. Après, moi, je pense, comme j'ai dit, hein, y a encore des manques et tu dois les compléter sur le mercato, parce que comme j'ai dit, au niveau de la défense, si vraiment il arrive à recruter personne, il va faire avec ce qu'il a. Mais dans l'esprit de Luis Enrique, est-ce que Kimpembe, Danilo, Skriniar, c'est le genre de défenseur qu'il aime? Non, tu vois. Ugarte, est-ce que c'est son 6 favori? Non plus, tu vois.
Il a tout le temps travaillé avec Busquets. Ugarte et Busquets, c'est pas la même.
Et attends, quand il est en Espagne, t'imagines qu'en Espagne, il aimait tellement Busquets en 6 qu'il a mis Rodri en défenseur central. T'imagines, il en est arrivé jusque-là quand même. Donc on parle d'un mec, vraiment, mais il aime la technique.
Ugarte, c'est pas ça, quoi.
Attends, mais t'imagines qu'en Coupe du Monde, il a une défense, Laporte et Rodri. Le mec, il aime les gars qui savent relancer depuis le tout
départ,
en fait. Et même Donnarumma, il a beaucoup progressé en jeu au pied depuis son arrivée au PSG. Mais il va falloir qu'il franchisse encore un cap, en fait, avec Luis Enrique.
Tout à fait.
Et parce que, excuse-moi, mais Navas, c'est pareil, c'est pas Monsieur Ballon-Pied, donc c'est même pas lui le grand gagnant. Enzo Lavalle et comment qu'il s'appelle, je ne vais pas citer Rico, parce que même si Rico, d'ailleurs, vient de se réveiller du coma, et c'est une bonne chose, oui. On va prendre le temps avant qu'il reparte de jouer au foot, tu vois, mais. Il y a qui comme gardien au PSG qui est un gardien typique du jeu au pied De Luis Enrique. J'aime
Maignan.
Bien Parisien, il s'appelle
Maignan.
Mac Maignan, mais il joue à Milan.
Ah,
Ah oui, mais il
est
joue à
parti.
Milan. C'est ballot, t'as tout compris. Donc oui, le problème, c'est qu'on n'a pas ce gardien idéal de Luis Enrique non plus. On n'a pas son neuf idéal non plus. Donc si tu lui laisses faire le mercato et qu'il peut lui-même recruter les joueurs qu'il estime qu'ils vont pouvoir jouer dans ce style
Alors,
de jeu.
ça sera la question après. Pour l'instant, c'est l'effectif en cours. Pour l'instant, c'est l'effectif
Il y
en
a des
cours. Mais
manques.
ouais, mais moi, il y a, et puis,
Mais
j'ai
il y
des
a des manques
doutes
qui
avec
existaient
la
déjà de toute
quantité.
façon sous Galtier. Il y a des manques qui existaient déjà sous Galtier comme le neuf de toute manière. Donc en soi, non, il y a toujours des manques dans son équipe.
Alors maintenant, on va parler de cette espèce de truc qui fait peur, de cette espèce de coach, alors typiquement barcelonais, qui a déjà gagné la Ligue des Champions, alors, mais pas forcément que barcelonais, parce que si on fait la liste, il y a Buffon, il y a Dani qui est Juventus, Dani Alves, Neymar, c'est des Barcelones, il y a Ramos, mais ça n'a jamais ramené la LDC. Et tout à coup, le Luis Enrique, on entend beaucoup dans les médias un entraîneur qui a gagné la LDC et d'ailleurs le troisième entraîneur qui a gagné le plus de titres avec Barcelone, blablabla, blablabla, qui arrive au Paris Saint-Germain. Est-ce que ce serait différent qu'avec tous ces joueurs, avec ce coach? Je ne sais pas si la question est claire, mais
bon,
en
non,
gros,
je sais ce que tu dis. Est-ce que tu penses qu'il va arriver avec
l'influence médiatique de ce truc de LDC, est-ce qu'avec Enrique, il ne va pas y avoir cette espèce de bouffage de cerveau oui, c'est bon, on a les arguments pour gagner la LDC et on va rester sur le terrain, ou va y avoir cet emballement inévitablement? Comment est-ce que tu perçois ça, tonton, si tu vois la question?
Moi, j'ai compris ta question. Est-ce qu'Enrique, du coup, il arrive avec un statut qui fait qu'il va être protégé comme Neymar, comme Messi, comme ces mecs qui arrivent avec une certaine gloire en arrivant au Paris Saint-Germain? Parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions et pas Paris. Attention, donc Paris, ils n'ont rien le droit de dire. Attention, on n'a pas le droit de critiquer. Hein. Si tu critiques Luis Enrique, t'es un ennemi du football. Non, blague à part sur ce petit troll. J'allais dire, logiquement, il y aura toujours des gens qui le diront. Mais est-ce que ces gens seront des supporters du PSG? Pas forcément. Ça va être des médias qui ont toujours un certain intérêt à taper sur le PSG et font leur beurre dessus, tu vois. Ça va être des supporters barcelonais qui vont nous dire comment on doit le traiter et on va leur rappeler gentiment, comme avec Messi, qu'il ne sera pas à Barcelone et que c'est un autre club. Donc, on va leur inviter encore une fois poliment à rester assis au fond de la salle, à se taire et à écouter ce qui se passe. Mais du coup, concernant Enrique, oui, il y aura une partie des gens qui mettront en place ça. Après, est-ce que lui, il arrivera avec cette mentalité? C'est ça la vraie question au fond. Pas spécialement. Je pense que lui-même, tu vois, il sait qu'il a réussi à Barcelone et il sait se regarder dans une glace, il sait dans quel contexte il a réussi à Barcelone. Et je pense que de lui-même, il a envie de montrer qu'il est autre chose qu'un Guardiola de Wish, comme certains pourraient le qualifier. Donc je pense qu'il a envie aussi de montrer qu'il peut faire des choses. Donc je ne suis pas le plus grand fan de Luis Enrique, encore une fois, mais je pense qu'on peut être un peu gagnant-gagnant dans le mariage, dans le sens où Luis Enrique, il arrive un peu comme le mec qui a une revanche à prendre, qui a faim, ça fait 6 ans qu'il n'a pas entraîné en club, il a des choses à prouver. Ça s'est mal passé en sélection, on lui reproche des choses, notamment d'être têtu, de sélectionner toujours des Barcelonais, d'avoir fait le forcing sur certains joueurs. Donc, tu as des choses à prouver, c'est ton moment, on s'assoit, on te regarde, vas-y, et pas de nous. Et franchement, je te souhaite de réussir parce que ça m'arrange. Et si Luis Enrique réussit, le PSG réussit. Je suis pas non plus borné. Si Luis Enrique doit réussir et que ça fait réussir le PSG, je signe tous les jours.
Et toi, du coup, Fuentes, cet argument Ligue des Champions, est-ce que Enrique va pas être bouffé par ça, par les médias, par tout ça? Est-ce qu'il va réussir à venir avec la tête sur les épaules et commencer calmement?
De toute façon, c'est très bien que dès que tu arrives au PSG, c'est l'affolement médiatique, quoi qu'il arrive. Après, je le vois pas, de mon point de vue personnel, hein, je ne veux pas faire une généralité, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, je le vois pas arriver avec un statut de coach star. Pour moi, c'est même pas votre premier choix déjà.
Ça on sait pas, parce
on
que peut-être que Nagelsmann en fait était le second choix qui était là en contre-feu pour vraiment parler avec Enrique. Tu sauras pas en fait.
Oui, tout à fait. Ouais. Après, mais dans ma vision des choses, je le voyais pas en premier choix pour le PSG. Tu vois, c'est pas le nom qui me serait venu en tête directement pour succéder à Galtier. Je me serais pas dit tiens Luis Enrique. Tu vois, je le voyais beaucoup plus à Naples, qui est pour moi beaucoup plus compatible avec son caractère, ce qu'il est, sa folie, tout ça. Mais bref, je le vois pas arriver en tant que star. Peut-être qu'on va lui rappeler son palmarès, mais c'est pareil, c'est un palmarès qui commence à dater maintenant. On sait que tout va très vite dans le football. 2015, ça remonte, tu vois. Donc aujourd'hui, on va plus se rappeler du Enrique en sélection, qui fait des très bonnes choses en sélection. J'ai vu des très bonnes choses, notamment le match face à l'Italie, tu en as parlé tout à l'heure, tonton. Mais on ne parle pas... Si tu le récupérais directement après 2015, là, oui, tu dis « Waouh, le PSG recrute le coach star », entre guillemets. Là, aujourd'hui, non, tu es sur un coach qui, certes, a fait ses preuves, qui est connu dans le milieu, mais c'est pas... ça reste un très bon coach, mais c'est pas le coach star où tu vas dire « Waouh ». Et enfin, un immense nom sur le banc du PSG, quoi.
On est d'accord, c'est pas Klopp ni Guardiola, mais ça reste un bon entraîneur
C'est un
pour
très bon
rester
entraîneur.
mesuré.
Oui, tout à fait.
Il y a une question qui est ressortie dans le chat que j'avais oublié de mettre dans le plan. Enrique et les jeunes, ça donne quoi? Est-ce qu'un de vous deux a des infos?
Ouais, je lui ai un petit peu répondu dans le chat, justement, c'est ce que je disais. Le meilleur exemple pour moi que je peux citer, c'est Eric Garcia, qui est un défenseur qui a connu la sélection très jeune, et notamment à l'Euro, et qui était d'ailleurs en rotation avec Potores pendant l'Euro. C'était un match Potores, un match Eric Garcia. Et Eric Garcia n'a pas été mauvais, d'ailleurs, il a fait des bons matchs. Et bon, la suite de sa carrière, c'est autre chose. J'en parlais justement dans mon live du Barça. J'expliquais qu'il avait vécu une grosse concurrence au Barça depuis qu'il est arrivé. Ils ont signé Christensen Koundé à son poste en mode merci d'être venu gratuit, mais tu vas t'asseoir sur le banc. Mais non, en tout cas, Luis Enrique avait su utiliser ce jeune joueur. Bon, au Barça, il avait fait ce qu'il a pu, mais la priorité, c'était pas les jeunes à l'époque, clairement. Il y
Ah
avait
non.
beaucoup trop de stars. Donc peut-être qu'il est capable de tirer quelque chose des jeunes du Paris Saint-Germain. Au niveau des jeunes, je pense qu'un mec comme Warren Zaïre-Emery, ça pourrait être le grand gagnant de l'arrivée de Luis Enrique, parce qu'il a le potentiel pour être un joueur générationnel. Et Luis Enrique, je pense que quand il va faire les séances d'entraînement, il va se dire, je vois pas l'intérêt de recruter ce milieu à 60 millions, alors que Warren Zaïre-Emery, pour moi, peut être ce joueur dans 2 ans, tu
Il y a un petit commentaire trollesque,
vois.
bientôt on apprendra que Galtier est le nouveau coach du Real Madrid, ça serait sublime, ça serait sublime. Mais
Non, mais on l'annonce à Marseille.
je leur souhaite pas ça, je leur souhaite pas ça en vrai. Est-ce que pour vous, et j'ai envie de commencer par toi, tonton, est-ce que pour toi, on va voir la ressurgence de joueurs? Alors tout à l'heure, tu nous parlais de Paredes, mais j'ai aussi envie de te lancer sur Soler. Parce que pour le coup, en accélérateur de jeu, si jamais on a le Enrique du Barça, Solaire est tout à coup un joueur qui fait sens.
Alors, j'allais te dire, ça dépend dans quel rôle tu veux l'utiliser, parce que si Luis Enrique, tu te fies à ses propos de Verratti, c'est un joueur qu'il adore et qui aurait toujours joué dans son équipe. Tu connais les fameuses phrases quand ils arrivent et ils brossent toujours Verratti et Neymar, les coachs, quand ils arrivent. Ils adorent dire, ouais, ce joueur est incroyable. Bon, après, dans les faits, on verra ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est si Verratti est titulaire, est-ce que Carlos Soler, il ne serait pas en rotation avec un joueur du même profil de plus haut niveau, du style Bernardo Silva, mais Soler serait son remplaçant? Et selon si Bernardo se blesse ou la forme, Soler aura du temps de jeu. Ça reste une possibilité. Mais je vois pas forcément Soler archi titulaire si tu recrutes en tout cas le fameux Bernardo Silva qui est évoqué depuis maintenant un mois dans la presse, tu vois.
Je vais te laisser rebondir. Enfin, Fuentes, t'es peut-être pas familier avec Soler, ou Paredes, ou ce genre de
Ah si, il
joueur.
a failli signer au Barça l'an dernier.
Je
On
suis
était bêtes
très
pour le
très
faire nous.
familier avec Solaire parce que je
Ah
suis
ben
avant
voilà,
tout
bah parfait. Est-ce que pour toi, justement, tous ces joueurs qui sont des joueurs déclassés du Paris Saint-Germain, c'est des joueurs qui pourraient retrouver une seconde jeunesse, c'est pas forcément le bon mot, mais une seconde jeunesse avec Luis Enrique.
Bah pour moi, typiquement, parce qu'on parle de joueurs, là en l'occurrence un joueur espagnol, qui connaît très bien la Liga, donc avec beaucoup de similitudes dans le jeu d'Enrique. Donc moi, typiquement, Soler, c'était même malheureux ce que j'ai vu le traitement. Après,
Ah, c'est n'importe
je peux
quoi.
le comprendre, mais je trouve qu'il était trop vite enterré chez vous. Après, c'est vrai que les prestations n'étaient vraiment
Pas
pas...
par moi.
Non, après, tout à ton
Non, mais
honneur,
toi, tu l'aimes
pas
bien,
moi.
c'est comme Basto, c'est pour ça.
Pas par moi.
Mais c'est un joueur qui, moi je le revois à Valence, mais c'est toujours pareil. Parler de Valence, c'est une chose. Là, on parle du PSG. Tout le
Voilà.
climat autour, c'est pas du tout pareil. Et ça, psychologiquement, pour un joueur à gérer, déjà, tu changes de pays, tu changes de culture, tu changes de langue. T'as tout ça à réapprendre, c'est très compliqué. Donc là, sur sa première année, je vous ai trouvé un petit peu dur avec lui. C'est que mon point de vue, hein, c'est libre à moi. Mais typiquement, c'est clairement un joueur qui peut revivre, déjà avec un coach espagnol qui le comprend, il va pouvoir parler la même langue. On sait qu'il lui a déjà donné sa chance. Enfin, pour moi, ça peut clairement être une renaissance pour lui. Hein.
Bah, j'allais même ajouter Carlos Soler, si je peux me permettre. Faut rappeler que quand il avait 17, 18, 19 ans, c'était considéré comme un très très gros prospect espagnol. Le Real Madrid était dessus et le Barça aussi. Et au moment où on signe d'ailleurs Carlos Soler au Paris Saint-Germain, le Barça a essayé de le faire tout
Bien
l'été.
sûr, bien sûr.
Donc à la base, le mec en Espagne, il a un certain potentiel. Il est censé être un joueur qui était censé atteindre un certain potentiel qu'il n'a pas atteint, qu'il n'a pas attendu. Ça, c'est un autre problème.
Après, il y a la manière avec laquelle on jouait à Paris. Il y a au-delà de la difficulté d'adaptation. Est-ce qu'il y avait une place? Parce que pour moi, Soler, c'est un accélérateur de particules. C'est pas forcément le joueur qui va avoir une grosse course. C'est pas forcément le joueur donc par les appels, mais c'est le joueur qui va t'assurer. Tu lui passes la balle, elle va repartir quasiment instantanément et elle repart très souvent dans la bonne direction. Et c'est un accélérateur de particules. Et pour ça, par rapport à ce que tu disais au début, moi, si je le vois au Paris Saint-Germain, je le vois en remplaçant surtout de Neymar, c'est-à-dire derrière les deux attaquants, un peu plus au milieu, pas forcément sur Bernardo Silva que je verrais plus s'écarter sur les ailes, mais plus dans ce rôle-là. Et à mon avis, dans ce rôle-là, tu pourrais retrouver quelque chose de l'ordre de ce qu'il faisait à Valence, et il permettrait justement d'assurer la transition dont vous parliez au début entre derrière et devant, mais il manquerait de joueurs devant et tout ça. Mais voilà, c'est plus dans ce sens-là que moi je le verrais, quoi. Alors, on sait que, mais d'une manière générale, c'est le nœud de ce truc. On sait que c'est un entraîneur avec une vision. Enfin, la vision, elle est pas très claire. On sait que c'est un entraîneur qui est têtu. Mais il y a ce contexte du Paris Saint-Germain, quoi. J'ai beaucoup de questions comme ça. Mais tout le monde s'est planté là-dessus. Et les noms qui sont plantés, bah, mine de rien, faut rajouter dans la liste des Carlo Ancelotti. Il y en a du monde. Il y en a de l'expérience. Il y en a des coachs qui ont fait des choses, etc. Tous n'ont pas été à un niveau satisfaisant pleinement, mais en tout cas, beaucoup se sont cassés les dents, beaucoup ont essayé la calinothérapie avant de péter un câble pour leur majorité. Est-ce que ça peut être... Je sais que j'ai déjà posé la question deux fois, mais c'est quand même un nœud du problème, et un nœud du problème de la lecture de la chose, surtout compte tenu du caractère de Luis Enrique. Est-ce qu'il peut y avoir une solution dans ce Paris Saint-Germain-là, quoi ?
Bah, je pense que pour répondre... Ah, j'ai fait vite, désolé Fuentes. Pour faire vite, je pense que en vrai, nommer un mec comme Luis Enrique avec son caractère, ça peut une manière des Qataris, et je me trompe peut-être, tu vois, de dire, ouais, on aimerait bien qu'un mec comme Neymar part, mais nous, on n'osera pas le dire. Donc si on met ce coach-là, on sait que lui, il va peut-être lui dire de partir, mais au moins, ce ne sera pas nous qui avons demandé son départ. Ce sera le coach, parce que le coach, il a le caractère pour le faire. Donc du coup, je me dis que un mec comme Luis Enrique, c'est peut-être aussi... L'histoire de se dire, tiens, et si on n'en profiterait pas pour mettre ce coach hyper caractériel qui n'hésitera pas à nous dire qu'il ne veut plus tel joueur, et peut-être que c'est le bon moment pour se débarrasser de certains.
Est-ce que tu as une lecture similaire, Fuentes, c'est-à-dire quelque chose de dark, c'est dark, les Qataris resteront les Qataris et ils utilisent les compétences des uns et des autres ponctuellement pour atteindre un agenda? Ou est-ce qu'en négociation il est dur, Luis Enrique, est-ce qu'il va pas signer, il s'assure avant de signer qu'il met pas la tête dans un sac de vipère, quoi.
Bah, il est dur, oui, il est dur. Après, il s'est quand même écrasé quand il a voulu toucher aux amis qu'adore du vestiaire. Il s'est quand même écrasé face à Bartomeu derrière. Donc oui, non, c'est une très bonne chose. Moi, je pense que si il est pas écouté, ça peut rapidement aller au clash. Maintenant, j'espère pour vous que le Qatar lui laissera un petit peu plus de liberté. Tu vois, vraiment lui faire confiance en se disant, c'est le coach, on va lui faire confiance, on va lui laisser faire ci, ça, ça et ça. Et vraiment écouter ses volontés. Parce que c'est pas, si tu n'écoutes pas, je pense que, comme j'ai dit, il a du caractère et ça peut vraiment péter et très rapidement sur un coup de tête. Il dit stop, terminé. De toute façon, après moi, de base, je ne le vois pas comme un coach sur le long terme, Enrique, que ce soit chez vous, même chez nous, parce que si on regarde, ça a été... sur la fin, on régressait, quoi. Sur la fin, c'était pas... Donc, je le vois très bien pour bâtir quelque chose d'assez solide, de ramener du caractère, beaucoup d'énergie, tout ça. Mais derrière, ce n'est pas un coach, tu te dis, waouh, on est parti pour 5 ans de folie, tu vois.
Il est là, enfin, presque là, en tout cas. Quelle recrue vous gardez absolument dans l'effectif, hors bien sûr Neymar et Verratti, puisque ça s'est déjà été annoncé. Tonton.
Quelle recrue ?
Oui, par rapport au fait qu'Enrique soit là, quelles sont les recrues qui doivent absolument rester ?
C'est-à-dire les joueurs qui viennent d'arriver.
Les recrues, les joueurs, pardon, excuse-moi.
C'est pour ça que j'ai bugué. Hein. Je me suis dit Neymar, Verratti, des recrues, je me suis dit, waouh, c'est passé si lentement. Non, blague à part. Les recrues, enfin les joueurs qui pour moi doivent rester au Paris Saint-Germain, en fait déjà, il faut prendre aussi le contexte du marché. Il y a des postes qui ne sont pas faciles à combler et on aura du mal à faire beaucoup mieux. Moi, je garde Ugarte parce que déjà, on vient de claquer 60 millions sur lui, donc ce serait un peu bête de dire qu'il part parce que Luis Enrique arrive. Enfin, si on fait ça, c'est l'un des moves les plus débiles. Mais vraiment, parce qu'on ne va pas être gagnant, on n'arrivera pas à le revendre plus cher que ce qu'on vient de l'acheter. Kurzawa, tu crois qu'il va rester ? Non, n'importe le coach. Mais les joueurs que tu estimes essentiels, c'est ça ?
Ouais, ceux qui
sont imbougeables.
En gros, est-ce que ça a changé la règle du jeu et est-ce qu'il y a des joueurs qui maintenant ils restent ?
Mais en fait, je ne sais pas vraiment parce que, comme j'ai dit, je ne sais pas exactement comment Enrique va organiser cette équipe. Okay. Peut-être que lui-même a des idées, qu'il veut recruter des joueurs et qu'en fonction des recrues qu'il va faire, il va en enlever certains, tu vois. Donc, je ne peux pas trop m'avancer sur ça.
Alors, je vais poser l'autre pendant de la question qui m'a fait bugger et après, je te lancerai Fuentes, t'inquiète pas. L'autre pendant de la question, c'est quelles sont les recrues qu'il faut prioriser maintenant ?
Bah, du coup, un 9, parce que ça, n'importe quel coach, bah, on n'en a
Mais
pas. Oui, c'est mon cheval de bataille.
voilà, attends, quel
Oui,
que soit le coach, en
non, mais
fait,
depuis...
c'est voilà.
Non, mais depuis des mois, j'en parle de tout de dire. Oui, on a résolu le 6. Bon, tu me diras, depuis 2017, fallait le faire, donc tant mieux. Mais
Et on
le
a pris le
9,
coach qui sait pas jouer avec. Hein. De quoi, avec un 9?
Avec
Avec
le
un 6.
6. Ouais, bon, c'est vrai. Bon, ça, c'est un autre problème. Est-ce que je dis, oh, bon, on en a un. Le problème est résolu. Mais là, il nous faut un 9 parce que, et un 9 qui, techniquement, soit au niveau de ce que va demander bah, Luis Enrique pour combiner avec les autres joueurs. Donc, idéalement, le profil de Kane serait le mieux. Est-ce qu'on va pour autant réussir à faire Kane? Ça, c'est un autre
Ouais.
débat. Et je pense que ça va être très compliqué. Ouais, je pense aussi que ça va être très
Il va rien.
compliqué. Ah, je pense à qu'il va au Real. Mais ouais, non, je pense à un attaquant. Ah, attends, attends, il me vient une piste. Attends, c'est un mec qui n'a même pas trouvé de club. D'ailleurs, personne n'en parle. Firmino, il est toujours libre.
C'est
Oui, mais
vrai.
c'est pas vraiment un neuf pour le coup.
Non, mais justement, c'est un
C'est
faux
vraiment un
neuf.
faux neuf.
Oui, et
Mais
justement,
Enrique
ça ne
aime bien
marche que
ça.
si.
Que... Pardon, bah, vas-y,
Oui,
Fuentes.
mais si Mbappé il reste, si Mbappé il reste, c'est Firmino qui va venir. Parce qu'il va vouloir d'un mec qui va combiner avec Mbappé. Donc ça va être Firmino. Si c'est Luis Enrique le coach, en tout cas, tu vois. En tout cas, si Luis Enrique le coach, je pense que Firmino risque d'être une recrue vachement plus poursuivie que Marcus Thuram en termes de profil. Vlahovic, bonne question. Je pense qu'il aimerait bien, parce qu'il peut justement faire le pivot. Il est quand même, c'est pas non plus Ronaldo Nazario, restons toute proportion gardée, tu vois, mais c'est un attaquant qui a quand même un minimum de technique. Il sait tirer les coups francs, et ça, c'est
Mais
très utile pour un neuf.
il préfère quand même quelqu'un d'un petit peu plus technique pour le coup.
Bien sûr. Mais attends, il sait
Et
tirer les coups
la
francs
référence est
gaucher.
Suarez, en fait, quand on parle de Luis Enrique, la référence est Suarez.
Non, mais
Un
bon,
profil plus
Suarez, il
comme.
a 38 ans, donc à un moment, il faut le laisser
Oui, non,
tranquille, il y
mais
a
ce
d'autres
que je veux
attaquants
dire,
sur le marché.
dans le profil. Et c'est là où un profil
Ouais.
comme Osimhen, par exemple, ferait peut-être plus sens. Du coup, toi, Fuentes, quels sont les joueurs qui, pour toi, maintenant, doivent rester au Paris Saint-Germain compte tenu de son arrivée? Premier temps, et dans un deuxième temps, quelles sont les recrues, quelles sont les pistes qu'il faudrait prioriser à ton sens, avec l'arrivée d'Enrique?
Après, moi, je ne suis pas le mieux placé pour parler de votre club. C'est pas une équipe que je regarde souvent. Donc, je vais peut-être dire des bêtises en disant des profils de joueurs. On va peut-être pas être en accord. Pour moi, un mec comme Marquinhos, même s'il a beaucoup, même s'il a malheureusement régressé, je pense qu'il a été touché psychologiquement. Mais pour moi, c'est vraiment un joueur qui remplit beaucoup de cases. Donc, c'est un joueur, pour moi, tu touches pas. Neymar, dans quel état d'esprit? C'est ça le truc, comment tu vas le récupérer après les incidents qui sont passés. Mais ça reste Neymar, t'as quand même envie d'y croire. Mbappé, c'est la question. Je pense que vous-même, vous ne savez pas encore. On repart pour un épisode avec les médias interminables. Bref. Zaïre Emery, j'aime beaucoup votre petit jeune. Très intéressant ce que j'ai vu de lui. Verratti, toujours pareil. Est-ce que tu es prêt à bosser? C'est toujours ça. Tu vois?
J'aime beaucoup le commentaire.
Oui. Après, Hakimi, il me semble que vous avez été déçu un petit peu, non, de...
Très.
Très
Bon,
déçu, ouais.
mal utilisé aussi, il faut quand même
Voilà.
dire ce qui est.
Moi, j'aimerais voir dans un autre contexte, parce qu'il nous a quand même prouvé ailleurs qu'il était capable de grandes choses. Après, je ne connais pas Vitinha, par exemple, je vais être incapable de me prononcer, je ne sais pas ce que ça vaut sur une
Remplaçant
saison.
de Verratti dans mon esprit, dans le 4-3-3 Luis Enrique.
Voilà, bah, moi, un mec comme Soler, pour moi, clairement, ça va être une renaissance. Je me trompe peut-être, mais pour moi, il aura clairement une carte à jouer. Après, défensivement, moi, je reste pas fan, mais j'aime beaucoup l'idée Kimpembe. Parce que pour moi, il représente quelque chose pour vous. En tant que vous, les Parisiens, tu vois ce que je veux dire? Pour moi,
Ouais, sauf qu'il lui reste qu'un an de contrat, il pourra rejouer qu'à partir de
Septembre.
Bon, septembre, mais septembre, la dernière fois qu'il pouvait rejouer à partir de septembre, enfin, la dernière fois qu'il pouvait rejouer, il a joué un match et puis il n'a pas pu rejouer après pendant 4 mois. Donc, on va s'attendre. Et puis, c'est un joueur qui n'a jamais vraiment réussi à franchir ce dernier
C'est
palier.
vrai qu'il a jamais step.
Et
Ouais.
il y a un moment où tu peux plus le considérer comme un jeune, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans l'idée, moi, j'aimais beaucoup un petit peu l'état d'esprit, ce qu'il représentait pour Paris, tout ça, tu vois. Ce qui, pour moi, vous manquait un petit peu, parce que vous avez besoin de Titi parisien, tu vois. Typiquement, bon, ça s'est très mal passé, mais quand je vois ce que nous a sorti comme saison Rabiot, je me dis, Rabiot, ça doit être chez vous, les gars. Avec un autre état d'esprit, sans sa mère, mais waouh, Rabiot, quand même, c'est...
Si c'était seulement le joueur, on prendrait, tu vois, mais il y a un
Oui.
mec.
Puis c'est jamais bon de se remettre avec une ex. Il
Non.
y a une petite question de Mark Zielinski là. Est-ce que Ekiti
et qui quittait.
GTD. Est-ce que l'étiquette peut progresser avec Luis Enrique?
Je pense, et je maintiens ce que je dis, si on était en Liga, il resterait au club. Mais on est en Ligue 1, et Ekitike, il lui manque genre facile, et je vais être très gentil, hein, facile 15 kilos. Donc pour moi, il doit partir en prêt. Genre Leipzig, Salzbourg, Sporting Lisbonne, Benfica, Porto. Tu vois, ces clubs qui savent bien développer les jeunes, qui risquent de perdre un attaquant, qui vont jouer la Ligue des Champions, c'est les clubs parfaits pour Ekitike. Mais actuellement, au PSG, c'est compliqué. On l'a vu, tu as vu les derniers matchs qu'il a fait, pour le peu de matchs qu'il a fait, qui ont d'ailleurs été plutôt pas mal. Il se blesse, pourquoi? Parce qu'il s'est fait démonter toute la première mi-temps. Donc, il doit prendre du poids.
Ça, et puis même techniquement, il y a des choses à revoir. Enfin,
non, techniquement, il pourrait jouer sous Luis Enrique, mais il n'a pas assez de poids pour ça.
Il ne comprend pas encore. Tu n'arrives pas à savoir quel est vraiment son rôle. Enfin, pour moi, c'est... Mais... Je pense que Luis Enrique, ce serait une étape qui serait trop vite, trop haute, et qu'il faut qu'il y aille un petit peu plus par étape. Il a essayé de faire un grand écart avec le Paris Saint-Germain, qui commence par faire un pas, et puis après, tu verras pour le grand écart. Mais c'est un petit peu trop tôt. Maintenant, comment est-ce que vous voyez la cohabitation Campos et Enrique? Fuentes commence. Tu vois un peu le profil de Campos? Tu vois un peu le profil d'Enrique?
Ouais, je sens des tensions. Clairement, je sens que ça va être explosif parce que un va vouloir quelque chose, l'autre va vouloir l'autre, mais qui aura le dernier mot? Si tu arrives directement sur ta première année dans un esprit de contradiction et limite de compétition, c'est pas sain, tu vois, mais on retrouve toujours ce truc qui n'est pas sain et qui règne autour de votre club, malheureusement, tu vois. Et je vous le souhaite que enfin ça s'arrête, en espérant que ce soit avec Enrique, mais. Non, je doute de la cohabitation. Et puis là, on voit un Mendes qui est en agent, qui est très présent par chez vous. Donc, est-ce que tu es libre? Est-ce que, tu vois, j'ai des doutes. Sincèrement, j'ai encore des doutes concernant.
Et toi, Tonton, comment tu la sens, la cohabitation entre les deux?
Bah, en soi, ils n'ont pas forcément toujours les mêmes pistes. Mais en soi, je pense que c'est aux deux de mettre chacun un peu d'eau dans leur vin pour arriver à s'accorder. Cependant, si à chaque fois que Luis Enrique propose un joueur, t'as Campos qui dit ben moi je veux ce joueur, et qu'en fait ben Luis Enrique il se rend compte qu'en fait il veut ce joueur parce que le joueur est sans pied Campos, et qu'en fait Mendes pardon, et que Campos a un intérêt à récupérer le joueur, non pas sportivement mais personnel, ben je pense que ouais, Luis Enrique ça va vite le gonfler et il va vite y avoir du clash. Donc le problème c'est que Campos, vu ce qui s'est passé lors du dernier mercato en hiver, hein, bien entendu, plus ce mercato d'été, que tu rajoutes à ça bah, qu'il a choisi Galtier et que ça s'est mal passé, bah, si tu ajoutes tout ça, tu te dis que Campos, en fait, c'est limite son mercato où il réussit, où il part, en fait, il va être mis sous pression immense. Et en même temps, il va devoir prouver. Et en même temps, bah, Luis Enrique vient d'arriver, donc il va vouloir prouver aussi. Donc, j'espère que ça se passera bien, mais j'ai un mauvais pressentiment.
Ouais, pareil.
Mais y a un truc, c'est est-ce qu'on ne peut pas interpréter le fait que Campos n'est pas nommé l'entraîneur comme un...
Des aveux.
Une forme de déclassement, quoi. Un désaveu assez conséquent, quand même. Il ne part pas avec le plus de pouvoir possible, quoi.
Ben, en soi, je pense que oui, un peu, en soi, c'est un désaveu, mais en même temps, est-ce que Campos, il a proposé 36 pistes de coach, lesquelles propose-t-il, pardon. Je veux dire, on sait qu'il voulait Mourinho. Bon, Mourinho, ça a l'air mort, donc du coup, il n'y a plus Mourinho. Mais écoute, Campos, t'as proposé ta piste, on t'a laissé la choisir, mais elle n'est pas possible. Donc peut-être qu'à un moment, ben écoute, c'est pas parce que c'est Campos le DS que bah, écoute, tu t'es raté. Si tu n'as pas d'autre option, bah, laisse voir les autres options, en fait, tout simplement. Au lieu d'essayer d'avoir le dernier mot à tout prix, surtout si tu ne peux pas l'avoir.
Il y a une question pour toi, Tonton.
Lukaku, pour une bonne ou mauvaise idée au PSG? Alors, je vais encore répéter ce que j'ai déjà dit sur Lukaku au PSG. Si tu n'arrives pas à faire les Kane, Osimhen, Vlahovic et tous les joueurs intéressants pour le Paris Saint-Germain, et que ton seul choix, c'est mettre Lukaku ou Ekitike en neuf au PSG l'an prochain, je prends Lukaku. Cependant, si tu peux faire mieux, je fais mieux. Tout simplement.
Alors, on va parler maintenant des pistes qui sont montées récemment. Et très récemment, c'est Jonathan David qui apparaît. Est-ce que Jonathan David pourrait être ton neuf?
Alors, le problème pour moi, ce n'est pas le joueur en soi. Non, parce qu'il est bon. Il est bon, mais il y a des nuances à mettre. Problème, c'est qu'il y a beaucoup de buts. Parce qu'on aime bien les stats hein, chez un neuf, hein, qui sont marqués sur pénalty. Alors, tant mieux, il est bon sur pénalty. Tant mieux. Il y en a, ils ne sont pas bons. Hein. Je visais personne avec le numéro 7. Mais au moins, je veux dire, lui, il est mis au fond. Mais par contre, aussi à nuancer, Il va nous coûter combien qu'on va vouloir l'acheter à Lille, Jonathan David? Il va vous coûter beaucoup trop cher. Lille va nous demander un prix qu'il ne vaut pas. Alors que peut-être qu'au même prix, on pourrait faire un autre attaquant plus fort ou plus adapté au Paris Saint-Germain. Donc moi, j'ai rien contre Jonathan David, mais moi, le problème, c'est qu'on va nous demander 60 millions, 70 millions, et c'est trop cher pour David tout de suite.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fuentes et Jonathan David?
Bah, je rejoins Tonton, c'est que c'est une piste intéressante, mais oui, ils vont clairement vous allumer. Donc, est-ce qu'au final, le rapport qualité-prix va donner satisfaction? Je suis pas forcément convaincu comment il va s'adapter au PSG, tu vois. Il arrive pas avec le statut de star, mais au PSG, il faut quand même un truc en plus, une certaine confiance en soi et un certain
Il
vécu, je pense, pour pouvoir
l'a,
s'imposer.
David, ça. Il l'a, David, ça.
Ouais, tu
Je
crois?
trouve, ouais. Je trouve, c'est, il a fait une première saison où il est complètement passé à côté et tout le monde l'a pris pour un fomblard. Et ensuite de ça, il a porté sur ses épaules, mais littéralement ses épaules, l'attaque pendant presque 2 ans, il me semble. Et tu sens un charisme chez lui. Et après ça, il le reproduit en sélection. Il l'a, justement, ça. Il l'a, cette capacité.
Ok.
C'est un petit peu. Moi, des fois, j'ai un peu l'impression que tu laisses passer Jonathan David. C'est un petit peu comme si tu laissais passer Osimhen il y a 3 ans, quoi. Il y a un moment où il faut savoir le prendre. Mais bon, après, ça
Je
n'est
pense que
plus
vous
de
avez beaucoup de cartes à jouer en plus en Ligue 1. Franchement, sincèrement, il y a des superbes joueurs. C'est
Luis
dommage
Openda
de.
aussi.
Comment?
Luis Openda aussi. Qui peut jouer autant sur l'aile droite que dans
Tu
le
vois?
demi-espace droit que attaquant, bien sûr.
Bien
Mais à un
sûr, tu
moment,
vois?
c'est à quel prix tu vas l'acheter, c'est ça le problème.
C'est toujours le même souci.
Alors, c'est bon, ça nous parle de Gonçalo Ramos beaucoup. Ça demande des news sur Gonçalo Ramos. Il n'y a rien eu ces derniers jours, les tout derniers jours,
À
mais
part des rumeurs, quoi.
voilà. Mais on
Ça
en est au
parlait
même
d'offres à
point.
60 millions.
Et pour le coup, ce serait le même prix que David, et il y a beaucoup moins de garanties qu'avec Jonathan David. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de garanties. Donc, à niveau égal, je prends Jonathan David, tout simplement, parce qu'il a beaucoup plus d'expérience.
Et moi, je préfère Ramos parce que lui, il a prouvé en Ligue des Champions et en Coupe du Monde. Double Kems.
Et alors, la dernière news qui est tombée, et pour le coup, elle serait vraiment compatible avec le coach Luis Enrique, qui n'est pas encore le coach parce qu'il n'a pas encore signé, mais bon, c'est comme si c'était fait. C'est Brozovic. Brozovic serait sur le marché. Est-ce que vous foncez ou pas?
Vas-y,
Ah ben
tonton.
oui. Ah ben le problème, c'est qu'en fait, tu as vu, je l'ai mis dans mon mercato idéal du Barça déjà aujourd'hui. Mais
Ah,
en soi,
cool.
en plus, en fait, le problème, c'est que j'ai lu la news après, comme quoi apparemment, il serait accessible à 25 millions d'euros. Alors, je m'excuse, Fuentes et amis barcelonais, mais vous allez vous débrouiller, c'est plus notre souci. S'il faut, vous mettez Gavi en 6, c'est pas notre problème. Mais ouais, va falloir aller sur Brozovic parce que, en fait, Brozovic est déjà prêt. Et ça me rappelle, tu sais, un peu Thiago Motta qu'on recrute au même âge quasiment. Et tu dis qu'en fait, tu as déjà Brozovic de prêt et tu peux même former Ugarte qui va être post-formé par Bielsa en sélection et il va se développer techniquement sous Luis Enrique et avec Brozovic qui va lui apprendre le vice du métier. Mais en fait, tu as le beurre et l'argent du beurre si tu arrives à avoir Brozovic et Ugarte. C'est le top du top. Tu peux pas faire mieux. Et puis il est croate. Attends, il est croate. Donc s'il est croate, on va gagner la Ligue des Champions, les gars. Il faut qu'on signe Brozovic.
Très rapidement, avant de te laisser répondre, Fuentes, juste non, Lionel, non, soyons sérieux. C'est sérieux. C'est un très bon joueur, Lacazette, mais soyons sérieux.
C'est plus l'âge le problème pour Lacazette.
Et l'âge, et puis même au même âge, David, il a trois Lacazette par orteil. Même si Lacazette était très bon. J'exagère un petit peu parce que j'aime beaucoup David, mais je pense que ça reste vrai malgré tout.
Ah non, mais Jonathan David n'est pas une fraude, attention, c'est ça le
Ah
problème, c'est
non,
que quand on compare des joueurs,
c'est un vrai gros joueur pour le coup,
le
David.
problème c'est que quand on compare des joueurs, on a souvent l'impression que genre celui qu'on met en avant, on dit que lui il est bon, mais l'autre c'est une vraie bouse. Non, non, les gars, restons mesurés. C'est pas parce qu'on dit que l'un est très bon que l'autre est nul. Attention.
Alors vas-y, Fuentes sur Brozo. Alors bon, a priori, ça en parle aussi au Barça. Est-ce que tu aimerais l'avoir au Barcelone? Comment est-ce que tu penses qu'à Paris Saint-Germain, ce serait une bonne idée? Comment est-ce que tu réagis à cette rumeur et où est-ce que tu aimerais le voir à l'arrivée?
Plus chez vous, ce qui signifie que nous on récupère quelqu'un d'autre.
Amrabat.
Amrabat, très intéressant, mais dans l'idée, moi j'aime beaucoup Zubimendi.
Il va être cher, lui.
Il va être très cher, il n'a pas forcément envie de partir, on verra après. On a toujours
Il est
plein
basque.
d'infos qui sortent. Ouais, tout à fait, les bases, quoi. Et il y a plein d'infos qui sortent, c'est difficile de cerner le vrai du faux, tout comme Kimmich, alors qu'on est incapable de. Enfin bref, financièrement c'est très compliqué, mais ça nous parle de Kimmich. Enfin, faut. Mais non, très bon sens, on a beaucoup parlé au Barça, ça en parle depuis un moment au sein de la communauté. Beaucoup l'ont On dit, bah tiens, le successeur de Busquets, tu vois, vraiment, c'était le joueur ciblé, pas très cher, ça en parlait. Maintenant, c'est clairement une piste intéressante pour vous. Sincèrement, c'est vraiment. Moi, j'ai du mal parce que je veux créer avec de la jeunesse au Barça, tu vois, je veux bâtir quelque chose. Là, c'est un peu différent chez vous. Et tu l'as très bien expliqué, tonton, c'est un mec, vous avez besoin tout de suite, comme Mota à l'époque, qui arrive, tac, c'est comme ça, il apprend aux plus
Il est
jeunes. Et
prêt.
derrière, ça déroule. Mota
Non, mais
qui
un
nous a
6 de
fait
Serie A en
énormément de bien à
plus.
l'époque.
Enfin, excuse-moi, mais la Serie A en plus, c'est peut-être ce qui correspond le mieux à la Ligue 1 en termes de recrutement. Je veux dire, quand tu regardes les joueurs qu'on recrute en Serie A, c'est peut-être le championnat qui ressemble le plus à la Ligue 1 en termes d'intensité, de physique, de tactique, de défense. Donc, en soi, je veux dire, l'Inter Milan, en plus, il a joué une finale de Ligue des Champions et il n'a pas été nul. Non, non, vraiment, je pense que c'est le joueur, il est vraiment à maturité pour ce poste, parce que comme je le dis, 6 défenseurs central gardien, c'est des postes où on demande certaines expériences et une maturité. Tu peux pas être au top à ce poste à 23 ans. C'est en général, tu es entre 28 et 31 ans quand tu es au top à ce poste. Mais
Clairement,
Brozovic est littéralement dans cette tranche, quoi.
et il a un profil qu'on n'a vraiment pas. C'est-à-dire que c'est le vrai créateur qui est capable de jouer 6, en fait. Et ça, pour moi, Marco Verratti n'en est pas vraiment un Marco Verratti hybride. Alors que Brozovic, c'est un 6, mais c'est un créateur. Et c'est le vrai profil dont on n'a pas. Par contre, au Barça, c'est dommage de ne pas avoir, justement, de pas vouloir un petit peu d'expérience. Mais bon, après, c'est un autre sujet, parce que vous avez déjà beaucoup de jeunes. Et même s'ils commencent à
C'est
éclore
vrai.
et à se poser, vous avez besoin de les encadrer un minimum quand même.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Alors bon, messieurs, ça fait 56 minutes, on a fait peut-être un petit peu court, mais en même temps c'est toujours bien quand c'est un peu trop court. Et on va en rester là. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas, les petits pouces et tout ça, c'est tout bête, hein. Bah, vous en avez l'habitude, vous en entendez parler partout, c'est ce qui nous aide pour le référencement. Je vous invite aussi à aller check la télé de Tonton. Vous recherchez Tonton Boller sur YouTube, vous allez tomber dessus. Fuentes,
C'est
merci
comme le port salut, ça c'est
beaucoup.
qui dessus.
Fuentes, merci beaucoup à toi de nous avoir rejoints. Ce fut un
Bah,
plaisir, ça fut un plaisir de faire ce podcast avec toi.
merci à
Et je
vous.
dis ciao à tout le monde et surtout n'oubliez pas, ici c'est Paris. Ciao,
Paris.
ciao.